in a nation. I wake up the nation. An angel in a mission. I wake them up with music. Yes, all I want is to be a solution. A solution.
Le bonheur, c'est le progrès, faites un pas en avant. Et c'est le progrès, mais ce n'est jamais le bonheur. Alors si on faisait un pas de côté, si on essayait autre chose.
C'est la première fois qu'on fait grève et puis ce sera la dernière, parce que celle-là, on va la gagner.
Oui, il faut arrêter de se faire exploiter, la fouille.
Ont donné de leur sueur, donné de leur santé, ou même souvent de leur vie, pour faire des bénéfices à une entreprise. Et que quand vous avez des actionnaires qui prennent cet argent, qui se le mettent dans les fonds, vous comprenez ? On est dans un système pourri.
Ce que le gouvernement est en train de faire, c'est une catastrophe sans nom. On est en train d'écraser la liberté d'expression, on est en train d'écraser les droits, les libertés des salariés, et tout ça, ça cache en réalité la casse du code du travail qui arrive avec Macron, et tout ça sous couvert de l'ultralibéralisme et du travail pour tous. Je pense qu'à un moment donné, il va forcément se passer quelque chose parce que les gens vont pas pouvoir continuer à s'écraser.
Qu'est-ce que tu fais ?
La révolution !
Démobilisation générale, 8e exercice préliminaire. Aujourd'hui, à l'heure dite, on s'arrête, on se parle. Comment tu l'as su, toi ?
J'ai entendu au poste.
Bah oui, moi j'ai toujours entendu annoncer les exercices préliminaires à la radio.
Alors, les types de la radio sont avec nous.
C'est pas qu'ils sont avec nous, c'est qu'on est partout.
Quelle info ?
Bon, je trouve qu'il y en a un petit peu marre des préliminaires. Ben allons-y, arrêtons tout pour de bon.
C'est la nuit, dans mon lit, il y a 11h, mal au cœur, déjeuner, mon café, la radio, trop c'est trop, les midis, les parents sont rentrés.
Et allez, c'est parti. Donc vous êtes bien sur Radio Canu, la plus rebelle de toutes les radios du monde entier. Et c'est le Canu Info du lundi 1er juillet 2019.
Alors, on va faire un petit tour de l'actualité. Est-ce que le micro a pas l'air de marcher ?
Si, moi j'ai si la. Je t'entends, okay. Mais c'est peut-être que tu t'es pas mis dans tes propres retours.
Si, mais je peux pas ne pas me mettre dans mes retours. Mais c'est pas grave. Donc on va faire un petit tour, comme d'habitude, de l'actualité internationale en allant faire un tour en Asie, au Japon précisément, pour revenir sur le G20. On va revenir sur une action qui a eu lieu il y a quelques semaines maintenant, mais qui est toujours aussi importante, sur des écologistes européens qui ont une manifestation en fait contre les mines de charbon. On va aller faire un tour au Sri Lanka, qui a eu la très très mauvaise idée de rétablir la peine de mort. Et on va finir par l'arrestation de la capitaine du Sea-Watch 3, qui s'appelle Carol Raquel. Au niveau national, on rappellera en fait une des dernières actions faites par le collectif des Gilets Noirs à Paris. On ira faire un tour à Nantes et pour voir cette funeste fête de la musique. Et on ira faire un tour à Paris, mais pour finir, pour revenir sur la Gay Pride. enfin au local, on fera un petit point sur tout ce qui s'est passé au niveau de la canicule et toutes les aberrations qui ont été faites autour. On reviendra sur le procès du collège Maurice-Ève qui s'est tenu ce vendredi et voilà. Et puis on finira, si le temps le permet, par un sujet surprise.
Si le temps le permet, on le fera, le sujet surprise, normalement. Hein, vous allez voir, ça va être super. Alors, on commence donc par un sujet à l'international, une fois n'est pas coutume, et on va rapidement parler du G20. Le G20 en soi n'est pas si intéressant, c'est un mélange de grandes farces et de ramassis d'ordures, de gros connards. Donc cette année, il s'est déroulé donc le 28 et 29 juin au Japon, à Osaka. Alors, petit retour historique, le G20 il a été créé en 1999. Il regroupe tous les ans les chefs d'État ou de gouvernement des 19 pays les plus riches au monde, ainsi que plusieurs représentants de l'Union européenne, dont le président de la Commission européenne bien souvent donc le chef de la BCE, ainsi que de nombreux ministres les chefs des banques centrales. Le G20 représente à lui seul environ 85% du commerce mondial et 90% du produit mondial brut. Bon, en gros, la plupart de ces chefs, qui sont principalement des hommes, il y a eu seulement deux femmes, d'État ou de gouvernement, se retrouvent pour pérenniser ce système commercial hégémonique basé sur le productivisme capitaliste, sur l'impérialisme, sur l'exploitation salariale, toujours plus importante, et sur les discriminations, et j'en passe et des meilleurs. Ce qui est rigolo, c'est que l'un des principaux sujets de débat cette année, c'était l'écologie. Parfois également, ils osent parler des droits de l'homme. Alors, on va donner quelques exemples des représentants de ces membres du G20. Alors, on a Mauricio Macri, donc le président de l'Argentine, hein, qui est un milliardaire, un homme d'affaires très à droite, un ultra-libéral sur le plan économique. On a Jair Bolsonaro, donc président du Brésil, hein, récemment élu, facho notoire, nostalgique de la junte militaire et ultra-libéral sur le plan économique. Alors, dans les ultra-libéraux, on a aussi Justin Trudeau pour le Canada. On a évidemment la France, l'Allemagne et la Grande-Bretagne, donc Macron, Merkel et Theresa May, qui sont tous les trois plus ultra-libéraux les uns que les autres. On a également Xi Jinping pour la Chine, Giuseppe Conte pour l'Italie, hein, qui est le représentant d'une coalition entre deux organisations, deux formations d'extrême droite, le mouvement 5 étoiles et la Ligue du Nord. On a pour l'Inde Narendra Modi, qui est un conservateur nationaliste, également ultra-libéral. La Russie, Vladimir Poutine, je vous passe les détails. On a également Mohamed Ben Salman, donc, qui est le chef d'État, monarque de l'Arabie Saoudite, hein, qui est représentant d'une extrême droite fondamentaliste, hein, qui a récemment dissous un journaliste dans de l'acide, en tout cas qui a participé à dissoudre un journaliste avec de l'acide. On a Recep Tayyip Erdogan, donc, qui est islamo-conservateur, très facho aussi, et pour la Turquie. Tout ce petit ramassis d'ordures se retrouve donc au G20 pour parler écologie. Ah oui, et bien sûr, j'oubliais Donald Trump pour les États-Unis. Et ça fait toujours plaisir quand on a des personnes comme ça pour parler d'écologie. Alors, on peut peut-être rappeler quand même que cette vaste farce, c'est précisément parce que le capitalisme repose sur l'exploitation du travail dont le seul but est la valorisation du capital, on se retrouve dans l'impasse du productivisme industriel qui conduit à l'exploitation des ressources naturelles. Étant que ces représentants de cette exploitation destructrice des ressources naturelles qui est liée au productivisme industriel se retrouveront pour continuer à diriger le monde, il est bien évident que les problèmes écologiques, les problèmes de l'écologie n'avancera pas. Pour ne citer qu'un chiffre, la moitié de toutes les émissions du CO2 depuis la révolution industrielle à la fin du XVIIIe siècle a été produite après 1986, et le rythme ne fait que s'accélérer. Il est fort dommage qu'il n'y ait pas eu un gros contre-sommet comme il y avait eu à Hambourg il y a quelques temps pour montrer à tous ces ramassis d'ordures à quel point on les déteste et à quel point ils représentent ce capitalisme qu'on exècre profondément.
En parlant de la crise écologique liée au capitalisme, il y a eu le week-end dernier en Allemagne une action écologiste européenne de grande ampleur dans une mine de charbon. Donc c'était le vendredi 21 juin dernier, 40 000 personnes venues de toute l'Europe ont manifesté dans la ville d'Aix-la-Chapelle en Allemagne à l'appel du mouvement Fridays for Future qui fédère les mobilisations du vendredi pour sauver le climat. Et suite à la manifestation, il y a environ 4000 personnes qui sont parties à quelques dizaines de kilomètres pour se rendre sur le complexe minier de Garzweiler, près de Cologne, à l'appel notamment de l'organisation Ende Gelände, qui organise des actions d'occupation des mines de charbon depuis plusieurs années. Donc, il y a 4000 personnes qui ont bloqué pendant une dizaine d'heures la production de cette mine à Garzweiler, qui est en fait l'une des plus grandes mines de charbon à ciel ouvert du bassin rhénan. Elle s'étend sur 43 km et fait 200 mètres de profondeur. Donc en fait, les manifestants ont dévalé les pentes de la mine et ont occupé le fond en bloquant la production pendant une dizaine d'heures, bien que cernés par la police. Ils ont fini par être évacués. Donc c'est bien une mine, l'une des mines les plus polluantes d'Europe, puisque cette région émet la plus grande concentration de CO2 dans l'atmosphère de toute l'Europe. Donc, par cette action, le mouvement demandait l'arrêt immédiat de l'exploitation du charbon en Allemagne et pas en 2038 comme ce qui a été décidé par la commission charbon mise en place l'année dernière par le gouvernement allemand qui a rendu ses conclusions en janvier dernier. On peut noter aussi que l'année dernière, ce mouvement Ende Gelände avait bloqué une voie de chemin de fer contre la destruction de la forêt de Hambach, une grande forêt en Allemagne qui était destinée à disparaître pour laisser s'agrandir la mine d'à côté. Et la forêt avait finalement été sauvée, au moins pour l'instant. Donc on espère que toutes ces mobilisations et actions exerceront une pression suffisante sur les autorités et le gouvernement pour reculer et sortir le plus vite possible de l'énergie produite par le charbon qui est extrêmement polluante.
On enchaîne donc avec le Sri Lanka.
Oui, tout à fait. Nous allons enchaîner avec le Sri Lanka, avec la peine de mort. En effet, le Sri Lanka va reprendre les exécutions des prisonniers condamnés à mort suite aux crimes liés au trafic de drogue. Deux personnes, deux assassins ont même déjà été embauchés pour faire cette horrible tâche consistant à enlever légalement la vie à ces personnes. Le président sri-lankais a même déjà paraphé l'exécution de 4 trafiquants de drogue. N'est-ce pas un prétexte mis en place pour tuer légalement des gens qui ont commis des crimes de meurtre, viol ou crimes liés à la drogue? Et ces personnes condamnées à mort étaient jusque-là emprisonnées à vie parce qu'il y a plus de 40 ans qu'il n'y a pas d'exécution. Et malgré la condamnation de l'ONG Amnesty International et de l'Union européenne, le président sri-lankais fait fi. En effet, le Sri Lanka compte au moins 2000 toxicomanes et 60% de prisonniers sont condamnés pour des crimes qui sont liés à la drogue. Par conséquent, ces 2000 personnes sont eux aussi susceptibles de se retrouver sur la liste des personnes assassinées pour des crimes liés aux drogues par le président sri-lankais. Et la prison à vie n'est-elle pas suffisante pour pouvoir leur faire payer leurs crimes? Faut-il vraiment que le président sri-lankais emploie 2 assassins pour leur faire enlever la vie pour qu'ils soient satisfaits? Il ne lui faudrait pas forcément ce prétexte-là pour pouvoir avoir moins de bouches à nourrir en prison ou faire un nettoyage carcéral spécifique aux drogués. Parce que aujourd'hui, est-ce qu'il aurait besoin de pouvoir sacrifier des vies humaines? Pour cela, ne deviendrait-il pas un assassin doublé de sanguinaire lui aussi? Merci.
Et donc, on enchaîne avec l'arrestation de la capitaine du Sea Watch 3, ou 3, si on parle vraiment bien anglais.
Oui, effectivement, mercredi, cette Allemande de nom de Carola Raquette, âgée de 31 ans, aux commandes du navire secourant des migrants avait forcé le blocus des eaux territoriales italiennes imposé par le ministre de l'Intérieur Matteo Salvini. Je m'excuse, le Sea Watch a accosté de force dans la nuit dans le port de Lampedusa et sa jeune capitaine Carola Raquette a été arrêtée avant que ne débarquent 40 migrants au bord depuis 17 jours. Carola Raquette a finalement choisi de forcer le passage au bord au beau milieu de la nuit malgré la vedette de la police chargée de l'en empêcher. Un policier explique devant les caméras, nous sont mis devant pour l'empêcher d'entrer dans le port. Mais rien. Si on était resté sur le chemin, le Siawatch aurait détruit la vedette. Arrivé sur le quai, des habitants et militants sont venus acclamer l'arrivée du navire, tandis que d'autres ont applaudi l'arrestation de la capitaine en disant « Honte, va-t'en ». Le pire, le ministre Matteo Salvini d'extrême droite s'est réjoui de l'arrestation de Carola Rackete, qualifiée de hors-la-loi ou aux commandes d'un bateau pirate, je m'excuse. Du coup, 5 pays européens, dont je cite la France, l'Allemagne, Portugal, Luxembourg et Finlande, se sont proposés pour accueillir ces réfugiés sauvés au large du Libye. Je mesure mes propos. C'est une politique migratoire et opportuniste cachée derrière cette annonce. Car on sait combien de fois le système d'accueil des migrants est dur dans ces cinq pays soi-disant prêts à accueillir. Malheureusement, pour cette cause humanitaire, elle risque 10 ans de prison. Du coup, la question que je me pose, c'est si maintenant sauver la vie d'un être humain mérite une peine de prison. Merci.
Oui, on rappelle que Carola Rackete a décidé d'accoster en Italie, alors que l'Italie voulait la forcer à retourner débarquer les migrants en Libye, où ils auraient été voués à la mort ou à l'esclavage ou à tous les traitements dégradants et inhumains que on sait que notamment les Africains d'Afrique subsaharienne subissent en Libye.
En tout cas, je tiens à préciser, comme on parlait de l'immigration et tout, bah moi aussi peut-être c'est une opportunité de le dire là dès maintenant, parce que chaque fois que je le répète, je me suis dit, certes, il y a d'autres qui résettent, mais on oublie d'ailleurs ceux qui poussent les gens à quitter. Alors pourquoi je le dis, c'est parce que tout simplement que, quand on essaie de prendre, je ne vais pas essayer des catégories, mais la majeure partie des gens qui demandent aujourd'hui l'asile en France, ce sont des Guinéennes. Alors la raison... Parce qu'on va les résetter pour dire, oui, d'après les chiffres, on peut discuter, hein, d'après les chiffres, c'est des Guinéens qui sont la majeure partie des gens qui réellement, qui demandent l'asile en France. Mais on essaye de dire que ces personnes ne viennent pas d'un pays qui est en guerre, entre guillemets. Mais la situation qui prévaut dans ce pays dépasse un pays qui était en guerre. Parce que tout simplement que ce président qui est là-bas actuellement, il cherche à s'éterniser au pouvoir et il a tué plus de 100 personnes, disons, pendant les manifestations politiques. Et ces manifestations politiques, c'est des jeunes qui sortent, demandent à l'État pour pouvoir continuer ses études dans ce pays et rester dans ce pays. Mais malheureusement, ils n'arrivent pas à vivre dans ce pays. C'est la raison pour laquelle ils souhaitent sortir de ce pays et partir à l'étranger. Et quand ils sortent, voilà comment ils sont accueillis.
Et pour parler toujours des migrants qui arrivent en Europe et de l'accueil qui leur est réservé, on vient de dire donc qu'il était extrêmement dur et que les conditions de vie étaient très dures pour les personnes qui n'obtiennent pas les papiers correspondants. Et il y a depuis novembre 2018 de nombreuses actions menées par des collectifs de personnes sans papiers, notamment en Île-de-France. Donc c'est en fait plusieurs collectifs qui se sont réunis en un mouvement qui s'appelle maintenant les Gilets Noirs. Donc on en avait déjà parlé dans cette émission, après qu'ils aient envahi l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle le 19 mai, à plus de 500 personnes qui avaient exigé la fin des déportations et de la collaboration d'Air France aux déportations, donc aux expulsions hors de France. Et ils avaient bien annoncé lors de cette action que ce n'était que la première et qu'une de nombreuses autres allaient suivre. Et ils ont tenu leur promesse puisqu'ils ont récidivé en envahissant et en occupant le siège d'Elior le 12 juin. Donc le siège du groupe Elior qui a été envahi et occupé à plus de 400 personnes. Avec les revendications suivantes, donc la libération immédiate d'une personne et en particulier qui a été nommée et de toutes les autres dont Elior nettoie la prison sous contrat avec la préfecture des Yvelines, parce que donc Elior est un grand groupe, le quatrième mondial de la restauration collective, qui est présent dans plus de 15 pays en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique latine et en Asie. Et notamment en France, c'est un groupe qui remplit beaucoup de services de restauration collective et de nettoyage et qui est le sous-traitant de nombreuses autres entreprises. Et donc, il a plusieurs contrats pour nettoyer des prisons, des centres de rétention administrative, etc. Et donc, en fait, à la fois, Elior fait nettoyer ses salariés dans les centres de rétention administrative et à la fois, Elior emploie de nombreux sans-papiers donc le groupe, comme plein d'autres entreprises en France, exploite ces personnes qui sont en situation irrégulière pour les payer moins, les faire travailler plus, ne pas respecter le droit du travail. Donc en fait, Elior fait travailler des sans-papiers pour nettoyer les centres de rétention administrative où sont enfermés les sans-papiers. Voilà. Et donc, les revendications du 12 juin lors de cette première occupation du siège du groupe, c'était... que Elior stoppe toute participation financière, logistique ou politique à l'enfermement et à la déportation des sans-papiers et que le groupe annonce le nombre d'immigrés sans-papiers qu'il exploite et qu'il s'engage à leur obtenir des papiers. Et à l'issue de plusieurs heures d'occupation, ils ont obtenu un rendez-vous le 8 juillet avec plusieurs personnes qui dirigent le groupe, donc notamment... le PDG, le directeur des ressources humaines du groupe, le président d'Elior Service et le directeur des ressources humaines d'Elior France. Mais ils ne sont pas endormis en attendant ce rendez-vous du 8 juillet, puisque le 20 juin 2019, ils ont procédé à une seconde occupation d'Elior. Donc cette fois, ils ont envahi la réunion du comité de direction d'Elior avec... un groupe formé de gilets noirs et de camarades femmes de chambre en lutte de l'hôtel NH Collection à Marseille, puisque en fait, Elior est un sous-traitant de l'hôtel NH. Et donc, il y a une lutte dont on a déjà parlé aussi à plusieurs reprises des femmes de chambre de NH Collection à Marseille, qui réclament notamment qu'on leur règle leurs arriérés de salaire. Qui en sont à plus de 77 jours de grève pour des rappels et des compensations d'impayés sur salaire, des augmentations de salaire, un troisième mois, une compensation des dimanches travaillés à 50% et une organisation du travail qui soit respectueuse de leur vie privée.
Elle voudrait surtout être embauchée en interne pour justement éviter de souffrir de la sous-traitance qui est totalement en fait une sorte de continuation de l'esclavagisme moderne quand il n'y a pas eu beaucoup de clients la veille, elles viennent le matin, elles peuvent faire des heures de trajet tous les jours et qu'on leur dise pour aujourd'hui il n'y a pas assez de travail pour vous donc vous rentrez chez vous. Et donc voilà, donc une des principales trucs c'est justement la destruction de ces entreprises qui améliorent et l'internation de toutes les personnes en fait de ménage qui sont une des activités principales en fait de l'hôtellerie.
Ouais, et ce que j'ai oublié de dire aussi c'est que le groupe Elior c'est quand même a quand même prévu de verser 350 millions de dividendes à ses actionnaires en 2019. Donc c'est sûr que embaucher des gens sans papier en les exploitant, en les payant en dessous du salaire minimum et en leur faisant faire plein d'heures supplémentaires non payées, ça permet de mettre pas mal d'argent de côté pour le donner à d'autres. Et les gilets noirs ne vont pas s'arrêter là, puisqu'on a parlé de ces trois dernières actions qui ont été très visibles et très fortes, puisque c'était des envahissements, des occupations. Mais ils avaient déjà organisé plusieurs manifestations et rassemblements, notamment devant la préfecture à Paris. Et maintenant, suite à ces deux actions d'envahissement d'Elior, ils demandent carrément à être reçus par le Premier ministre pour réclamer la régularisation de tous et tous les militants du mouvement des Gilets Noirs. Ils demandent des papiers, un logement, la liberté maintenant pour tous et toutes. Et ils ont aussi publié une pétition en ligne pour soutenir leur demande d'être reçus par le Premier ministre. Et voilà.
Et longue vie aux gilets noirs.
Et longue vie aux gilets noirs. Ouais.
Et donc maintenant, on va aller faire un tour à Nantes pour revenir sur le drame de la fête de la musique.
Alors, à Nantes, vous avez dû en entendre parler probablement quelques jours après, si vous ne suivez que les médias mainstream. Alors, qu'est-ce qui s'est passé donc dans la nuit du 21 juin au 22 juin, donc à la fête de la musique? Eh bien, une personne, Steve, un animateur périscolaire de 24 ans, a disparu suite à une charge de 15 et 20 policiers de différentes unités, dont la compagnie départementale d'intervention et la BAC, et quelques maîtres chiens, puisque même un chien a été jeté sur eux, donc en pleine fête de la musique. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour que les flics aient l'impression qu'ils étaient en pleine manif gilet jaune? Eh bien, il y a des gens qui faisaient une fête le 21 juin, oui, ils mettaient un sound system en place, donc assez tardivement sur le quai Wilson. Il y avait une autorisation tacite jusqu'à 4h du matin, donc pour faire du bruit. Or, à 4h30 du matin, il y avait encore le sound system et les flics ont décidé de charger très violemment. Alors, ils ont utilisé des gaz lacrymogènes, des grenades de désencerclement et des LBD 40. Hein, c'est pour ça que je vous compare avec ça avec une manif de gilets jaunes. Évidemment, il y a eu un mouvement de foule. Évidemment, à cette heure-là, le soir de la fête de la musique, eh bien, les gens sont dans un état qui fait qu'un mouvement de foule, plus la nuit, plus la peur, eh bien, fait qu'on peut tomber à l'eau, sachant que le quai Wilson, il n'y a pas de garde-corps, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de protection. Donc s'il y a un mouvement de foule, eh bien, ceux qui sont le plus proche du bord, eh bien, ils tombent dans l'eau. Et en l'occurrence, l'eau, c'était la Loire. La Loire qui est un fleuve, donc, où il fait froid, où il y a du courant qui est très fort. Précisément 14 personnes, 15 sont tombées à l'eau, 14 ont été repêchées par les pompiers et un non, et c'est donc ce fameux Steve. On a le cynisme toujours des représentants de la police. D'abord le directeur adjoint Thierry Palermo qui a d'abord annoncé publiquement et médiatiquement qu'il n'y avait pas eu de charge. Alors il y a plein de vidéos qui tournent sur internet, hein, la charge on la voit bien et elle est violente. Le préfet, ensuite, le plus haut gradé du département, a minimisé le nombre de personnes qui sont tombées à l'eau. Et puis, il s'est permis de dire, vous savez, les forces de l'ordre interviennent toujours de manière proportionnée, on l'a vu ces derniers mois, mais face à des individus avinés qui ont probablement pris de la drogue, il est difficile d'intervenir de façon rationnelle. A priori, donc, ce qui aurait justifié cette intervention policière, ce serait des jets de projectiles. Donc, ce serait une provocation des personnes qui étaient au son de système. Alors que sur les vidéos, ce qu'on voit bien effectivement, c'est que les forces de l'ordre interviennent violemment, matraquent, utilisent des armes qui sont ultra dangereuses. Ils ont même lâché donc un chien sur la foule. Donc évidemment, il y a eu un mouvement de foule. Et Steve, à ce moment-là, eh bien, lui, il dormait tranquillement hein, à côté du sound system. Sauf qu'il ne sait pas nager et donc il a dû tomber à l'eau et puis se noyer tout simplement. Et son corps n'a toujours pas été retrouvé. Certaines des personnes qui sont tombées à l'eau ont témoigné. J'en cite un hein, qui dit « Si les pompiers n'étaient pas arrivés, je ne serais pas là. J'étais à 4-5 mètres sous le quai. » Vous imaginez 4-5 mètres, vous tombez dans l'eau sous le quai. Donc, et je continue, je cite, avec une corde glissante dans les mains. Je n'aurais jamais pu regagner les quais tout seul. J'ai cru que j'allais mourir. Voilà, tout simplement. Donc, effectivement, si les pompiers n'étaient pas intervenus, eh ben, c'était plus de morts suite à cette intervention policière violente. Il y a une enquête de l'IGPN qui a été lancée, mais on connaît très bien les conséquences inutiles des enquêtes de l'IGPN, puisque les policiers sont protégés par l'inspection générale de la police nationale et qu'ils vont l'être une nouvelle fois, comme on a pu le voir sur toutes les violences policières de ces derniers mois. Samedi, il y a eu à Nantes une marche en hommage à tous ceux qui sont tombés à l'eau, mais surtout une marche en hommage à Steve avec des banderoles où il était marqué « Où est Steve ?» Vérité et justice, hein, pour que vérité et justice soient faites. Il y avait 1000 personnes, c'est un beau chiffre, un bel hommage, mais bien inutile par rapport à la violence policière de ce moment-là. Et une fois de plus, hein, une fois n'est pas coutume, les flics sont en roue libre et ils se sentent tellement protégés par leur hiérarchie et par l'inspection générale de la police nationale qu'ils se permettent de charger des gens à la fête de la musique à 4h30 du matin à côté de la Loire. Et ça fait 15 personnes qui tombent, dont une qui est morte.
Eh ben oui, et là on va aller faire un tour à Paris pour revenir sur la Gay Pride. Donc la Gay Pride qui s'est tenue donc comme tous les ans, qui s'est plutôt bien passée, et mais comme tous les ans, et de, enfin en tout cas un phénomène qu'on voit de se développer de plus en plus, c'est que la Gay Pride est envahie en fait de chars originaires d'entreprises, de boîtes, de représentants en fait de l'État, notamment de la police, qui osent en fait venir et aborder leurs couleurs et pour faire ce qu'on appelle en fait maintenant du pink washing, qui est donc le fait d'essayer de nettoyer son image de toutes les saletés qu'on peut faire tout au long de l'année en se présentant comme étant en soutien à une lutte d'opprimés. Justement pour dénoncer ça, à Paris, un collectif qui s'appelle Gwyn contre les déportations a bloqué avec un certain nombre d'autres personnes de la manifestation le char en fait de l'association qui s'appelle Personne apostrophe L personnel, qui est en fait qui était le char d'Air de Air France, et pour dénoncer justement le fait que Air France participe tous les ans activement à la déportation de très nombreux étrangers et qu'à aucun moment en fait l'entreprise ne met en avant un quelconque droit de retrait, au contraire participe avec grand plaisir à tout cela. Je vais vous lire un petit communiqué qu'on peut trouver. Alors, chaque jour l'État français déporte de force celles et ceux qui n'ont pas les bons papiers ou le bon visa. Déporter veut dire envoyer vers la mort, et nous, Green contre les déportations, nous nous y opposons. En permettant au ministère de l'Intérieur de réserver directement des places dans ses avions, Air France participe activement à la déportation des migrantes vers la mort. Air France se fait une juteuse recette sur leur assassinat et récompense du même coup les agents de la police aux frontières en leur offrant des miles et autres avantages commerciaux. Nous refusons la présence d'une entreprise qui reçoit de l'argent de la part de l'État pour déporter à la marge des FRT. La Pride est un moment de célébration et de lutte. Nous ne pouvons accepter qu'une entreprise qui collabore à la mise à mort des personnes exilées vienne se refaire une image progressiste en s'enveloppant dans un drapeau arc-en-ciel. Personnel, c'est sur vos existences de personnes LGBT qu'Air France capitalise pour s'offrir une communication à peu de frais et pouvoir continuer tranquillement à déporter, y compris d'autres personnes LGBT. Nous, Green, contre la déportation, agissons en solidarité avec les luttes des sans-papiers contre le racisme d'État, celui qui enferme dans les centres de rétention administratifs et dans les prisons, qui exploite le travail de celles et ceux qui construisent et nettoient les aéroports où elles sont contrôlées et arrêtées. Il n'y a pas de déportation douce, toutes mènent à la mort, toutes vont à l'encontre de la liberté de circulation et d'installation des personnes. Personnel, quelle fierté y a-t-il donc à participer aux expulsions? Quelle fierté y a-t-il à déporter? Personnel refuse le pinkwashing. Refuser le pinkwashing, refuser d'être un outil du racisme d'État, refuser les déportations. Donc après ce communiqué, en fait, ce qui est toujours aussi délirant, c'est qu'en fait cette association personnelle, donc une des associations des salariés d'Air France, a simplement dit qu'elle n'était absolument pas au courant qu'Air France a ce genre de pratique et qu'elle allait se renseigner. Et depuis, enfin, à travers les réseaux sociaux, on a vu qu'elle s'était renseignée et qu'elle s'en fichait totalement. Voilà.
Alors, il est 19h32. Est-ce que ce serait pas le moment venu de faire notre petite surprise? Alors, on me dit dans l'oreillette que non, pas tout de suite. Donc, eh bien, on va passer à un sujet passionnant, qui est un sujet au local, donc, qui est un sujet dont vous n'avez probablement pas du tout entendu parler cette semaine, qui est la canicule.
Et oui, parlons de la canicule, puisque finalement, on trouvait qu'on n'en parlait pas beaucoup dans les médias de la canicule, mais il y aurait plein de choses à dire sur la canicule. Par exemple, le nombre de personnes qui sont mortes de chaud sur leur lieu de travail cette semaine, je ne l'ai pas ici parce que finalement ce n'est pas le sujet, mais tout ça pour dire que les médias pourraient aborder le sujet de la canicule de manière bien plus intéressante qu'ils ne le font. Bref, nous allons parler de la canicule, l'alerte pollution et des transports à Lyon, puisque comme vous avez pu le constater, la circulation alternée a été mise en place cette semaine à Lyon. Donc en fait, on dit que c'est une circulation alternée, mais c'est plutôt un stop à la circulation pour les pauvres à Lyon, il faut le dire, puisque il y a eu la mise en place du système critère. Donc c'est des petites vignettes qu'on met sur sa voiture qui vont de 0 à 5. Et cette semaine, seules les personnes qui avaient des voitures avec des vignettes allant du chiffre 0 à 2 pouvaient se déplacer dans l'agglomération lyonnaise en voiture.
Mais qui ont ces vignettes?
Mais qui a ces vignettes? Et sur quels critères se fonde le système critère? Eh bien, uniquement sur l'ancienneté des véhicules, comme vous pourrez le constater par vous-même en vérifiant la classification des véhicules prévus aux articles L318-1 et R318-2 du Code de la route. Finalement, si vous avez un 4x4 qui date de l'année dernière, vous avez le droit de circuler en ville malgré l'alerte pollution maximum. Est-ce que c'est pas magnifique ? Donc, pourtant, nous, on aurait quelques autres idées pour faire baisser la pollution à Lyon. Par exemple, mettre en place la gratuité des transports.
Mais en oui. commun.
En commun, bien sûr.
Ce serait génial.
Et donc, ça s'est mis en place dans plusieurs villes en France, notamment à Aubagne, depuis 10 ans, où la commune a pu constater qu'il y a eu un report quand même de 50% des gens qui se déplaçaient en voiture et en scooter vers les transports en commun, ce qui est plutôt efficace. Suite à la mise en place de la gratuité du réseau. Et il paraîtrait que Citral a annoncé une étude de faisabilité de la mise en place de la gratuité du réseau TCL. Mais n'espérons pas trop, puisque apparemment, en général, ce genre d'étude vise plutôt à prouver que ce n'est pas possible, parce que où va-t-on trouver les 30% du financement total du réseau qui sont actuellement fournis par le prix des tickets et des abonnements ? On pourrait imaginer que le coût des contrôles qui sera supprimé est une bonne partie de cet argent. Bon, on a plein d'idées. En tout cas, les transports en commun gratuits, ça serait vachement mieux que d'empêcher seulement les pauvres de se déplacer en voiture.
Et de permettre seulement aux riches de se déplacer en voiture. Alors, on enchaîne donc avec la petite surprise. Alors, en introduction, on vous en avait déjà parlé, donc au local, hein, vous savez qu'il y a un certain nombre de squats qui hébergent des migrants, des demandeurs d'asile, notamment, et des sans-papiers à Lyon, notamment sur la parcelle donc proche de QC, où il y a l'Amphi Z, Mandela et La Trappe. Et ces lieux sont en procédure d'expulsion et vont être, pour certains, prochainement expulsés. Donc, on va avoir quelqu'un en ligne, hein, c'est bien ça ?
Ouais, tout de suite.
Ben, on a qu'à y aller maintenant. Allô ? Allô, allô ?
Allô ?
Allô, bonjour,
ouais,
salut.
Ouais, je t'entends pas très bien.
Ouais, est-ce que tu entends ce qu'on te dit ?
Oui, c'est bon, là j'entends.
C'est super. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer ce qui est en train de se passer et pour quelle raison c'est en train de se passer ?
Alors là, on est une quarantaine de personnes devant le 40 quai Arloin. Du coup, il y a un spot qui vient d'être ouvert pour héberger des gens qui vont très bientôt être mis à la rue. On sait notamment qu'il va y avoir une expulsion dès la semaine prochaine de la Maison Mandela. La Maison Mandela, c'est un immeuble occupé sur la même parcelle que celui de l'Amphi Z, donc à QC Villeurbanne. Et du coup, voilà, qui va être expulsé sans aucune proposition de relogement par l'État. Du coup, bah, y a un collectif qui s'est organisé pour ouvrir un nouveau lieu pour héberger ces gens qui vont bientôt être mis à la rue. Donc là, il pleut beaucoup. Mais voilà, éventuellement, s'il y a des gens qui veulent passer, nous soutenir, et surtout demain matin à 6h pour éviter une expulsion illégale.
D'accord, donc demain matin et après-demain matin, il y aurait besoin de soutien pour éviter une expulsion illégale. Pourquoi il pourrait y avoir une expulsion illégale ?
En fait, le lieu, il est occupé depuis vendredi, si je ne m'abuse. Donc voilà, normalement le propriétaire est obligé d'entamer une procédure judiciaire pour pouvoir faire expulser le lieu, mais on a l'habitude quand même des expulsions illégales, donc on se méfie, on reste vigilant. C'est pour ça qu'on s'est réunis nous là ce soir et qu'on invite tout le monde à venir demain matin à 6h au 40 quai Arloin.
D'accord, ok, donc pour le moment tout se passe bien, pas d'intervention policière en perspective?
Non. Pour le moment, on attend la police. Ils grainent quasiment. Du coup, s'ils écoutent Radio Canu, qu'ils n'hésitent pas à venir constater l'occupation et qu'on leur fournisse les preuves qu'on est là depuis vendredi. Et voilà, car on a froid. Je sais que c'est pas raccord avec le sujet sur la canicule qui vient d'être fait, mais on a hyper froid là.
Bah non, mais ça fait plaisir d'avoir froid.
Oui, c'est bien.
Ce qui fait plaisir, c'est que si...
D'avoir froid devant un immeuble occupé pour reloger des personnes qui sinon seraient sous la pluie.
En tout cas, ce que ça prouve, c'est que des immeubles vides, il y en a encore un bon paquet sur Lyon et que l'État, comme la mairie, comme la préfecture, serait complètement en capacité de réquisitionner ces immeubles pour loger ceux qu'elle devrait normalement, légalement loger. Et ça fait plaisir. En tout cas, bravo à vous pour cette
initiative. Oui, mais d'autant plus que je me permets de rajouter qu'on a eu aujourd'hui les résultats du diagnostic social pour l'Amphizède et que, comme prévu, aucune proposition de relogement conséquente a été faite, si ce n'est éventuellement pour ceux qui ont le droit depuis des mois et que l'OFI refuse d'héberger. Voilà.
Bon, on expliquera ce que c'est que le diagnostic social, social et l'OFI après, mais en tout cas, merci.
Bah, merci à vous, je suis hyper contente que vous m'ayez appelé, je vous écoute tous les lundis, je suis hyper fan de vous.
Mais oui, mais on sait, tu nous envoies beaucoup de mails, tu pourrais arrêter s'il te plaît d'ailleurs.
Au revoir, à bientôt.
Allez, salut.
Au revoir, salut.
Alors, donc, elle parlait du diagnostic social, pourquoi ? Puisque l'OFI, donc, qui est...
L'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui est censé s'occuper d'héberger et d'accompagner les personnes qui demandent l'asile en France, mais en réalité, il n'y a que 50% des demandeurs d'asile en France qui obtiennent véritablement un hébergement pendant la procédure.
Et donc,
le reste est à la rue.
Donc l'État se place lui-même dans l'illégalité en n'hébergeant pas ses demandeurs et demandeuses d'asile. Et donc, en face, eh bien, comme il y a beaucoup de logements vides, eh bien, des collectifs de solidarité et de soutien ouvrent des squats comme c'est actuellement en cours, donc sortez vite de chez vous, allez sous la grêle et allez les soutenir, ils n'attendent que ça. On enchaînerait bien, d'ailleurs toujours sur un sujet similaire, en tout cas qui touche un squat de migrants, donc à Croix-Rousse, le procès du collège Maurice Sève.
Alors oui, et c'est tenu en fait ce vendredi la première étape en fait du procès pour une demande d'expulsion du collège Maurice Sève. Donc le collège Maurice Sève, rapidement pour les rares personnes qui ignorent encore de quoi on parle, c'est un ancien collège de la Croix-Rousse qui a été squatté depuis quasiment un an maintenant par en fait à la base qui était ouvert pour qui continuait à être principalement pour héberger en fait les mineurs isolés qui devraient légalement être pris en charge par la métropole et qui ne fait absolument pas son travail et qui continue à grossir petit à petit et qui à l'heure actuelle compte plus de 300 personnes, dont une grande majorité de mineurs, alors que la métropole avait commencé à intervenir en fait pour faire son travail et avait plus ou moins donné quelques douches et aménagé quelques pièces, et ben là la métropole s'est carrément fait demi-tour en cédant. En fait, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'elle cède aux intérêts de Vinci, qui, parce que en fait il y a le Vinci qui a pour projet de construire en fait de l'hébergement des immeubles de lutte sur cette parcelle et demander à la métropole d'accélérer en fait l'expulsion pour pouvoir démarrer au plus tôt leurs travaux et pour pouvoir donc se faire énormément d'argent en mettant à la rue donc plusieurs centaines d'enfants. Donc oui, pardon, le premier procès, enfin la première étape du procès...
Parle bien dans ton micro, n'hésite pas.
...a eu lieu ce vendredi, et heureusement, les avocats ont pu obtenir un report, et donc la prochaine étape aura lieu dans un mois.
Ok, donc on continuera, si on continue les émissions, en tout cas, vous tenir au courant. Sinon, tenez-vous au courant sur le site rébellion.info pour les différents rendez-vous de ces jours-ci, d'ailleurs, puisqu'il va falloir aller soutenir ce nouveau squat qui est ouvert depuis tout à l'heure, d'une part, et également les squats menacés d'expulsion, comme le collège Maurice Sève, mais aussi l'Amphizède, la Trappe et Nelson Mandela à QC.
Pour continuer sur l'agenda et en rapport direct avec le collège Maurice Sève, il y aura ce mercredi 3 juillet une rencontre imagée autour de l'hébergement des mineurs isolés. Donc vous êtes invités à découvrir le groupe solidaire en images et en personne au cours d'un moment festif et convivial avec buffet. Le mercredi 3 juillet de 20h à 22h30 à la salle de la Marmite Colbert au 7 rue Diderot à Lyon 1er. Il y aura aussi cette semaine, non, il n'y aura pas grand-chose cette semaine finalement, à part aller soutenir le squat qui vient d'ouvrir. Donc voilà, vous aurez le temps de le faire.
Ouais. Écoutez, oui. Nous, notre émission touche à sa fin et on va vous souhaiter de très,
bon courage pour la pluie, parce que comme vous allez soutenir le squat,
j'avoue, actuellement ouvert sous la grêle, c'est beau. On fait un hommage en amont, et on va quand même aussi vous souhaiter de très très bonnes vacances, et puis même si nous on espère vous retrouver la semaine prochaine,
lundi prochain, on vous retrouve, mais nous on n'est pas en vacances, nous, des travailleurs, des vrais, on est tellement bien payés qu'on continuera à être là tout l'été. En tout cas, on vous laisse avec les bandes continues de Radio Canu. On vous rappelle que vous étiez sur le Canu Info du lundi 1er juillet
sur Radio Canu 102.2,
la plus rebelle des radios.
Trying hard with your summer clothes, you expected more. With your heart jumping in your chest, jumping in your chest, falling on the floor. You stay hidden in the shadows of the lane between the road and the old house. A thousand lonely streets, let me run.
Vous écoutez Radio Canu et à l'instant c'était The Breeders avec Little Fury. Juste avant c'était Sid Matters avec High Life. Et encore avant c'était Laura Verse avec Say Darling Say. Radio Canu, la plus rock'n'roll des radios.
Comme c'est bon de boire à plein poumon. Et perdu dans la nuit étoilée, l'air de la liberté. Je me suis fait la belle. Je me suis fait la belle. L'alerte n'est pas encore donnée, il dort à point fermé. J'effleure la rosée du matin dans ma cave à la fontaine. Je me suis fait la belle. Je me suis fait la belle. Ma dernière pensée sera pour la fille du geôlier, la fille du geôlier. Au loin la cloche a sonné, la chasse à l'homme est lancée. Je sens mon cœur qui s'affole, mes pieds qui battent le sol. Je me suis fait la belle, je me suis fait la belle. Si je m'en sors cette fois-ci, je te promets ma jolie. Toi mon unique lumière perdue dans cet enfer. Qu'on se fera la belle. Qu'on se fera la belle. Ils ne mourront pas vivants, je tomberai avant. Ma dernière pensée sera pour la fille du geôlier, la fille du geôlier. Les sifflements des gardiens, les hurlements des chiens de tous côtés comme une bête traquée. J'ai cru que c'était la belle. J'ai cru que c'était la belle. La lutte est par trop inégale dans l'univers carcéral. Ainsi là où je succombe, ils creuseront ma tombe. Ici finit la belle. Ici finit la belle. Dernière pensée sera pour la fille du geôlier, la fille du geôlier. Le plus simple bouquet jusqu'au jour où la pénitentiaire ne sera plus que poussière. Pour une vie plus belle, pour une vie plus belle. Tes yeux versent l'oubli de la haine et des douleurs anciennes. J'ai vu l'éclair de la vérité quand tu m'as tendu la clé. C'était toi la belle. Que c'était toi la belle. L'ami, nous allons danser.